4. En poursuivant notre descente, on passa devant trois autres portes, et je commençais à croire que Léa cherchait à éviter le petit nid douillet de Kellyn, son petit nid électrifié. Mais elle s'arrêta devant la porte suivante, l'ouvrit et recula d'un pas sous l'effet de la surprise. Je la retins d'une main, de l'autre, je dégainai le revolver de Monsieur Bouditch. Avant que je puisse jeter un coup d'œil à l'intérieur, Radar passa devant moi en remuant la queue. Léa porta sa main à son front. Ce n'était pas un salut cette fois, mais le geste spontané d'une femme qui sent que ses ennuis ne s'arrêteront jamais. Tapis dans le couloir, hors d'atteinte du battant de la porte, je découvris le snab. Radar lui donna un petit coup de truffe entre ses antennes en agitant la queue. Puis elle s'allongea à plat ventre et le criquet sauta sur son dos. Ayota assistait à la scène par-dessus mon épaule, fasciné.
« Vous bourlinguez, Sir Snub, hein? Comment vous nous avez trouvés ?»
dit-il. J'avais ma petite idée là-dessus. Claudia était capable d'entendre le Snub dans sa tête et ce don fonctionnait peut-être dans les deux sens. Dès lors, le Snab nous avait suivis grâce à une sorte de GPS télépathique. Une idée insensée, mais pas plus qu'une sirène dotée d'un pouvoir similaire, si? Ou qu'un cadran solaire qui vous faisait rajeunir? Quant à savoir comment il s'était retrouvé ici, je devinais que Léa n'était pas la seule à connaître les passages secrets du palais, et un criquet, si gros soit-il, pouvait aller là où un humain ne pouvait pas aller. J'avais pu le constater de mes propres yeux à Deep Malin.
Qu'est-ce qu'il fait ici ? Demanda Iris. Il est là pour nous guider ?
Dans ce cas, il s'était déplacé pour rien, car je savais où on était, même si Aaron m'avait fait emprunter un autre chemin. Le même couloir large, les mêmes appliques capuchonnées de jolies cheminées en verre, les mêmes tapisseries, les mêmes statues de marbre. Celle qui m'avait rappelé Xulu s'était brisée en deux en tombant sur le sol. Pas une très grosse perte, si vous voulez mon avis. Je posai les mains sur mes genoux et me penchai en avant jusqu'à ce que mon visage touche presque la tête du Snab. Perché sur le dos de Radar, il me regarda sans peur.
« Que fais-tu ici ? Tu nous attendais ? Qu'est-ce que tu veux ?»
Claudia avait parlé de la nécessité de vider son esprit. Je tentais de vider le mien, et je crois que je me débrouillais pas mal compte tenu des circonstances et de la pression que nous imposait le temps, mais si le criquet nous envoyait des messages télépathiques, ce n'était pas sur ma fréquence. Toutefois, ils émettaient sur la fréquence de quelqu'un d'autre apparemment.
Jaya dit « Prince Charlie, le Snab vous souhaite bonne chance et espère que vous réussirez. »
Je ne pensais pas qu'elle inventait, pas vraiment, mais je devinais qu'elle accomplissait son désir. Toutefois, elle ajouta quelque chose qui me fit changer d'avis. Ayota l'écouta et un large sourire apparut sur son visage, dévoilant de sérieux trous dans sa dentition.
« Sérieux ? » dit-il. « Somme la coupe ?»
Ce n'est pas ce qu'il dit, mais ce que j'entendis.
« Laisse-moi m'en occuper, Charlie. Je peux ?»
Pour faire plaisir à quelqu'un qui a passé beaucoup plus de temps que toi, Deep Malin. »
Je lui donnai l'autorisation. Je la reprendrai si je pouvais, et j'utiliserai le revolver, mais je n'en savais pas plus. Le Snab non plus, car il l'aurait certainement dit à Jaya sinon. Quand j'y pense, cela me rassérène, mais pas assez. Dans toute l'histoire du monde, de tous les mondes, l'ignorance n'a jamais rattrapé la moindre erreur.
5.
Il y avait un trou de belle taille dans des lambris derrière le piédestal qui avait accueilli l'horreur à tentacules, et je repensais au brûleur à gaz défectueux dans le couloir de Deep Malin. Un courant d'air gémissait dans les espaces vides derrière le mur, et des relents fétides s'en échappaient.
« C'est par là qu'est arrivé le petit lord, aussi sûr que la crème fait le beurre !»
commenta Ayota. Il avait pris la tête de notre procession, suivi de près par Léa. J'essayais de me placer à sa hauteur, mais elle traça sans m'accorder le moindre regard. Radar prit sa place. Elle transportait toujours le Snab sur son dos. Jaya et Iris fermaient la marche. On passa devant les miroirs dorés dont je me souvenais et on atteignit enfin la porte en acajou
qui donnait sur les appartements du grand intendant. Comme il faisait partie des rares logements qui bénéficiaient de l'électricité, j'en déduisis qu'ils avaient abrité jadis le dénommé Loudoum, le chancelier du roi Yann, mais je n'en avais jamais eu la certitude. Léa dégaina son poignard et moi mon revolver, en prenant soin de rester derrière Ayota. Celui-ci regarda Jaya et articula sans le son.
« Derrière la porte !»
Elle acquiesça. Ayota frappa avec ses grosses jointures sales.
« Y a quelqu'un ? On peut entrer ?»
Sans attendre la réponse, il tourna la poignée, en or évidemment, et enfonça la porte d'un coup d'épaule. Elle s'ouvrit à la volée et un grognement se fit entendre. Ayota tira la poignée vers lui et repoussa la porte contre le mur encore une fois. Nouveau grognement. Une troisième fois. Une quatrième. Les grognements cessèrent. Une cinquième fois. Radar aboyait. Quand Ayota tira la porte vers lui de nouveau, l'homme caché derrière s'écroula sur l'épais tapis rouge qui couvrait le sol du vestibule. Son front, son nez et sa bouche saignaient. Il tenait un long couteau. Lorsqu'il leva les yeux vers nous, je reconnus un des hommes présents dans la loge VIP, le type à la cicatrice sur la joue qui avait murmuré à l'oreille de Petra. Il leva son couteau et son bras décrivit un large cercle ouvrant une entaille superficielle sur le tibia velu d'Ayota.
« Non, non, pas de ça, petit !» dit Ayota, et il posa le pied sur le poignet de l'homme en appuyant de tout son poids jusqu'à ce que l'autre lâche le couteau sur le tapis.
Je le ramassai et le glissai dans la ceinture ornée de concho de M. Boditch, du côté opposé à l'étui du revolver. Léa se laissa tomber à genoux à côté de l'homme à la cicatrice. Il la reconnut et sourit. Le sang coula de sa lèvre fendue.
« Princesse Léa, je suis Jeff. Un jour, je vous ai mis un pansement sur le bras quand vous étiez coupé. Vous vous souvenez ?»
Elle hocha la tête.
Et un autre jour, j'ai sorti votre petite calèche d'un trou boueux. On était trois, mais mon amour pour vous était si fort que c'est moi qui poussais le plus fort. Vous vous souvenez ?
Elle hocha la tête encore une fois.
Je n'ai jamais voulu participer à tout ça, je vous le jure, princesse. Acceptez-vous de me laisser partir ? Un souvenir du bon vieux temps, quand vous étiez une enfant, et Lilimar, une belle cité. »
Elle hocha la tête, là encore, pour signifier qu'elle voulait bien le laisser partir. Et elle planta son poignard dans un de ses yeux levés vers elle, jusqu'à la garde. 6. Il n'y avait pas d'électricité dans les appartements ce jour-là, mais l'homme à la cicatrice, Jeff, avait allumé partiellement les appliques à gaz afin d'éclairer sa sale besogne. À mon avis, vu l'endroit où il nous attendait, il ne pensait pas qu'on allait débarquer à 5. Sans parler de l'apparition du snab, un criquet cavalier qui chevauchait le dos de ma chienne. Eris dénicha le petit levier de cuivre qui contrôlait le gaz et poussa les jets au maximum. On trouva Kellyn dans la pièce voisine, allongée sur un gigantesque lit à baldaquin. La chambre était plongée dans l'obscurité. Ses mains étaient nouées sur sa poitrine, ses cheveux coiffés en arrière. Il portait la même veste de smoking en velours rouge que le jour de mon interrogatoire. Une légère brume bleutée l'enveloppait. On aurait dit du fard à paupières sur ses yeux fermés. Il ne bougea pas lorsqu'on se déploya autour de son lit volé. Jamais un vieil homme n'avait paru aussi mort, et d'ailleurs il le serait bientôt. J'ignorais s'il y avait l'eau courante dans le cabinet de toilette que j'apercevais à gauche de la chambre, mais il y avait certainement une pompe. Je me disais que mon vieil ami, le grand intendant, aurait eu besoin d'un bon bain. Jaya et Eris parlèrent en même temps. Jaya.
« Où est le snab ?»
Eris.
C'est quoi ce bruit ?
C'était un mélange de couinement et de claquement de dents, ponctué de brefs sifflements aigus. Lorsque le bruit approcha, Radar se mit à aboyer. En me retournant vers le salon pour voir ce qui arrivait, je remarquai combien Ayota avait blêmi. C'est ce qui me sembla, du moins. Mon attention était presque entièrement fixée sur la porte de la chambre. Le snab entra en deux bonds, puis sauta sur le côté. Bientôt suivi par les habitants du palais qui vivaient cachés dans les murs et les recoins obscurs, un torrent d'énormes rats gris. Zaya et Eris hurlèrent. Léa ne le pouvait pas, mais elle se colla contre le mur, les yeux écarquillés, les mains plaquées sur la cicatrice de sa bouche. J'étais prêt à parier que ces rats répondaient à l'appel du snab. N'était-il pas le seigneur des petites choses, même si la plupart de ces rats étaient plus gros que lui? Je m'éloignai du lit. Ayota vacilla. Je le retins. Il respirait vite. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas, mais j'étais obnubilé par les rats. Ils escaladèrent les draps et les couvertures qui pendaient sur les côtés du lit et grimpèrent sur le corps du grand intendant. Il ouvrit brusquement les yeux, tellement brillants qu'on avait du mal à les regarder. L'aura bleu pâle qui l'entourait prit une teinte plus soutenue, plus pure. La première vague de rats fut calcinée à son contact. L'odeur de viande cuite et de fourrure roussie était insupportable. Cela ne les arrêta pas. Des troupes fraîches piétinèrent les corps carbonisés de leurs camarades en couinant et en claquant des dents. Kéline gesticula pour les repousser. Un bras jaillit de l'amas grouillant et se mit à leur taper dessus. L'un d'eux, accroché au pouce de Kéline, se balançait tel un pendule, la queue enroulée autour de son poignet. Le sang ne coulait pas car Kéline n'en avait pas à donner. J'apercevais par moments des éclats de lumière bleutés entre les rats qui le submergeaient. Il hurla et un des rats, de la taille d'un chat adulte, lui arracha la lèvre supérieure, faisant apparaître ses dents qui grinçaient. Et les rats continuaient à se déverser par la porte ouverte de la chambre et à se répandre sur le lit, jusqu'à ce que le grand intendant se retrouve enterré sous une couverture vivante de fourrure, de queue et de dents. Un bruit sourd près de moi. Ayota venait de s'écrouler dans un coin de la pièce, à l'opposé des trois femmes qui tremblaient et de Radar qui aboyait. Léa la tenait par son collier, à deux mains. De l'écume sortait des coins de la bouche d'Ayota et coulait sur son menton. Il me regarda et essaya de sourire. « Pouah !» Je crus tout d'abord qu'il parlait de légumes, puis je compris le mot qu'il ne parvenait pas à prononcer. Soudain, une explosion étouffée fut suivie d'un éclair. Les rats s'enfuirent dans tous les sens, certains en feu, d'autres simplement brûlés. L'un d'eux me frappa en pleine poitrine et glissa le long de mon t-shirt en haillons, laissant derrière lui une traînée de viscères. Les femmes qui le pouvaient hurlèrent de plus belle. Les ailes du snab commencèrent à produire ce bruit caractéristique des criquets. Les rats obéirent immédiatement. Ils firent demi-tour et ils battirent en retraite, abandonnant des centaines de cadavres. Le lit de Kéline était jonché de viscères et trempé de sang de rat. Kéline, quant à lui, n'était plus qu'un squelette désarticulé sous une tête de mort souriante posée de travers sur l'oreiller en soie. J'essayais de relever Ayota, mais il était beaucoup trop lourd pour moi. « Eris !» criai-je. Aïe est tombée! Viens m'aider! C'est grave! Elle se fraya un chemin au milieu du flot de rats qui se tarissaient, sautillant et poussant des cris chaque fois qu'ils passaient sur ses pieds, mais aucun ne la mordit, ni elle, ni aucun de nous. Léa la suivit. Jaya demeura en retrait avant de nous rejoindre finalement. Je pris Ayota sous les aisselles. Eris prit une jambe, Léa prit l'autre. On le porta à nous trois en essayant de ne pas trébucher sur les derniers rats, dont un qui n'avait plus de pattes arrière et se traînait vaillamment sur le sol pour rattraper ses semblables. « Dommage, » dit Ayota. Sa voix gutturale s'échappait de sa gorge qui se refermait rapidement. Des postillons jaillirent de sa bouche. « Dommage. J'aurais voulu connaître la fin. Tais-toi, garde ton souffle. » On l'allongea sur le long canapé bleu. Près d'une quinte de toux, il cracha de nouveaux caillots de bave au visage de Léa qui s'était agenouillée pour repousser les cheveux collés sur son front en sueur. Jaya prit un apron ou un truc semblable sur la table à la licorne pour essuyer ce qu'elle pouvait. Léa sembla ne pas s'en apercevoir. Ses yeux restaient fixés sur ceux d'Ayota. Ce que je voyais dans les siens C'était de la bonté, de la pitié et de la compassion. Il essaya de lui sourire, puis tourna la tête vers moi.
C'était sur la lame de son couteau. Une vieille ruse.
Je songeais avec quelle désinvolture j'avais glissé le couteau dans ma ceinture. Si je m'étais coupé, même légèrement, Ayota ne serait pas le seul à baver. Son regard revint sur Léa. Il leva un bras, très lentement, comme s'il pesait 50 kilos, et porta le talon de sa main à son front.
Ma reine, quand l'heure viendra, accomplissez votre devoir.
Sa main retomba. Ainsi s'éteignit Ayota, qui, quand je l'avais vue pour la première fois, s'accrochait au barreau de sa cellule comme un singe. Après tout ce qu'il avait enduré, costaud comme il était, il avait suffi d'une entaille au tibia pour le tuer. Ses yeux étaient restés ouverts. Léa les ferma, se pencha et appuya la cicatrice de sa bouche contre une joue mal rasée. Un baiser à sa manière. Puis elle se redressa et montra à la porte. On la suivit en enjambant les cadavres de quelques rats morts durant leur fuite. Avant d'atteindre le couloir, elle s'arrêta, regarda en arrière et porta ses mains à sa gorge. Ayota parla une dernière fois, comme l'avaient fait Falada et le Snab.
La reine d'Empis accomplira son devoir, je le jure.